Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Deux articles qui ont attiré mon attention dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Des femmes forcées de rembourser leurs frais d'accouchement. Ce sont des femmes migrantes à statut précaire. Je vous donne un exemple là, parce que, écoutez, c'est quand même quelque chose. Il y a une madame qui a donné naissance à un enfant qui était mort-né. Imaginez, déjà là, c'est un drame épouvantable. Après son retour à la maison, elle reçoit un appel de l'admission de l'hôpital. On lui dit, madame, vous devez rembourser vos frais, 7 000 $, frais liés à l'accouchement. Bien entendu, une somme qui ne comprend pas les soins au nouveau-né alors décédé. Donc, ces situations-là se passent chez nous. C'est quand même assez préoccupant, inhumain aussi, j'ai envie de dire. Je comprends que les soins de santé, ça coûte quelque chose, mais est-ce qu'on pourrait pas aménager des exceptions pour ce type de cas-là? C'est avec le docteur Michel Vell, qui est obstétricien gynécologue bénévole pour la clinique Médecins du Monde. Docteur Vell, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Ça me fait grand plaisir. Est-ce que je prononce votre nom comme il faut?
Ah, tout à fait.
Bon, parfait. Médecins du Monde, c'est une clinique médicale qui s'adresse aux femmes enceintes à statut précaire, c'est bien ça?
Ben, Médecins du Monde, c'est un organisme humanitaire. Hein,
mais votre clinique?
Qui est dédiée à améliorer les droits à la santé, en particulier pour les plus vulnérables, les qui sont exclus du système de santé. Et donc, on a une clinique pour les femmes enceintes, pour les migrantes à statut précaire, et c'est tout à fait dans notre mission de s'occuper de ces personnes-là.
Cette clinique-là, est-ce qu'elle dessert seulement ce type de service-là ou il y a d'autres services?
Ben, la clinique médicale de Médecins du Monde dessert tous les personnes qui vivent au Québec, qui résident au Québec, qui n'ont pas d'autres domiciles, mais qui sont jugés par la RAMQ inadmissibles à la couverture par la RAMQ ou qui sont également inadmissibles au programme fédéral. Et donc, ces personnes-là n'ont pas, en général, de couverture médicale. Bon, bien sûr, on a une clinique spéciale pour les femmes enceintes parce que c'est une grosse partie de la clientèle. Souvent, ce sont des femmes jeunes en bonne santé. Mais on a aussi une clinique générale pour toutes les autres personnes, les enfants, les hommes qui ont des problèmes de santé et qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie.
OK. Donc, petit dans notre tête, quand on entend des personnes avec un statut précaire, on pense tout de suite à des personnes qui sont sans papier, qui sont ici de façon illégale. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas ça du tout. Là. Il y a toutes sortes de situations possibles.
Malheureusement, la régie de l'assurance maladie a une vision très restrictive de qui est résident du Québec. La plupart des personnes qu'on voit à la clinique ont des papiers et ont un statut où on sont en voie d'essayer de régulariser leur statut. Ça comprend des gens très variés. Il y a des gens, effectivement, qui ont été... Il y a quelques personnes qui n'ont pas de statut, qui sont là sans statut particulier, mais il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, des gens en attente de parrainage, des personnes qui ont des visas étudiants à long terme, des personnes qui ont des permis temporaires, des personnes qui sont en appel de jugement, des personnes qui sont des conjoints de personnes qui ont des visas étudiants. Il y a au moins une centaine de statuts différents de personnes qui vivent ici, mais qui ne sont pas considérées comme ayant droit à l'assurance maladie.
Bon, là, Dr. Vell, dites-moi, là, parce que comme tout le monde, je lis ces textes-là où on raconte des témoignages qui sont fort poignants, là, des femmes qui témoignent et qui disent « j'étais en train d'avoir des contractions et l'hôpital me demandait un dépôt de 1 800 $ je pense que c'était quelque chose comme 1 000 $ pour le médecin, 800 pour l'anesthésiste. On parle d'argent cash. » Là, je regardais ça, mais je me disais, excusez, je vais vraiment le dire comme je le pense, là. Est-ce qu'on est dans une république de bananes? Est-ce qu'on donne des valises d'argent cash aux hôpitaux pour qu'ils acceptent de soigner les femmes qui accouchent? Je veux dire, on est toujours bien pas les États-Unis, là, où on sait qu'il y a des gens quasiment qui meurent devant les portes d'urgence parce qu'ils peuvent pas payer. Ici, je veux dire, il me semble qu'on n'est pas une société comme ça. Je veux dire, qu'on demande de l'argent comme ça à des personnes en souffrance, ça vous dit quoi?
Ben, quand on s'occupe de ces personnes-là, des histoires poignantes comme ça, on en a à la dizaine. Hein? Mais c'est un paradoxe de notre société qui, d'une part, a un régime universel, qui, d'autre part, exclut certaines personnes qui vivent ici de ce régime universel. Si on compare, par exemple, aux États-Unis, aux États-Unis, effectivement, l'accès à la santé est très variable et il y a beaucoup de soins qui ne sont pas donnés facilement. Mais, comme c'est le cas, il y a des lois qui disent qu'on est obligé de soigner les gens qui n'ont pas de papier.
C'est ça. Donc, pourquoi on leur demande de l'argent? Pourquoi ça se fait pareil?
Au Québec, cette loi n'existe pas. En plus, au Québec, tous les soins médicaux sont à l'acte. Donc, la personne qui donne les soins doit reçoit de l'argent pour son acte, elle n'est pas payée à salaire par le gouvernement.
Oui,
par
oui, oui.
Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont empathiques, tout ça, qui vont accepter de soigner sans demander de l'argent ou en demandant une somme nominale. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus près de leur sou et qui vont exiger des sommes très élevées pour donner des soins à des personnes qui n'ont pas de couverture et qui vont faire du chantage, qui vont dire, par exemple, si vous ne me donnez pas tant d'argent, ben, je ne vous fais pas votre épidurale. Si vous ne donnez pas tant d'argent...
Excusez-moi. Si vous ne me donnez pas tant d'argent, je ne vous fais pas d'épidurale.
Ah oui, toujours, bien sûr. C'est la norme.
Excusez, là.
C'est même pas une exception, c'est la norme.
Mais ces gens-là n'ont pas de cœur, Dr. Vell, parce que aux dernières nouvelles, là, les anesthésistes, ceux qui pratiquent les épidurales, c'est une des spécialités les mieux payées, là. Je peux pas croire qu'ils sont pas à deux, trois exceptions près, là, hein, pour des femmes migrantes qui sont en train d'agoniser en contraction. J'ai déjà accouché trois fois, là. Je peux vous dire que si tu veux la péridurale puis que tu peux pas l'avoir, c'est vraiment pas le fun.
Je pourrais pas de jugement moral parce que c'est pas mon rôle ni mon.
Moi, je vais en porter un.
D'accord. Mais je peux vous assurer que dans mon hôpital, il y a la plupart des anesthésistes vont refuser de donner l'épidurale s'ils n'ont pas d'argent, la somme cash qu'ils demandent.
Wow.
Ils vont dire que la femme doit utiliser les d'autres méthodes pour soulager.
Des beaux êtres humains. Mais quand vous prêtez serment pour devenir médecin, le serment d'Hippocrate, c'est tout ça? Oui.
Oui, on appelle ça comme ça, oui.
Bon, ben, il n'y a pas l'obligation de prêter assistance aux personnes en détresse?
C'est-à-dire que il y a des gens qui considèrent que à part que si la personne n'est pas
en danger de mort,
son pronostic vital ou sa santé n'est pas très gravement menacée, elle a qu'à payer pour des soins qui sont jugés pas absolument nécessaires pour sauvegarder la vie ou la santé.
Je comprends. La loi.
Il arrive aussi, par exemple, que des gens utilisent d'autres formes de pression, comme par exemple, on va faire quand même l'accouchement ou la césarienne, même si la personne n'a pas d'argent, mais on va lui dire, tant que vous ne payez pas, on ne vous donne pas le certificat de naissance de votre enfant.
Puis, bon, on parlait des frais d'accouchement de césarienne, mais advenant le fait où le nourrisson a des complications, qu'il doit être hospitalisé, qu'il doit avoir des soins, ça aussi, là, ça peut monter très, très vite comme facture, là.
Ah oui, ça peut monter très, très vite. On a eu, il y a quelques années, une personne qui a accouché. L'enfant avait des malformations parce qu'elle n'avait pas eu un bon suivi pendant sa grossesse. Après, il a été transféré en soins intensifs néonataux, tout ça. Puis, finalement, le bébé est décédé de toutes sortes de complications.
Ouais.
Et on lui a envoyé une facture de 300 000 $.
Pardon? 300 000 $. Ça, elle n'aura jamais d'une vie pour payer ça, là.
Non, elle ne le paiera jamais, bien sûr, mais enfin, c'est juste pour dire l'absurdité de cette façon de faire.
Puis j'imagine qu'à cause de ça, des frais possiblement encourus, il y a bien des femmes qui vont pas à des examens, qui font pas certains tests et qui se mettent dans une situation où ils pourraient mettre la vie de leur bébé en danger, là.
Ben, c'est pas seulement une hypothèse, c'est une réalité.
Oui.
C'est sûr que quand des soins vitaux sont nécessaires, on donne les soins. Mais des gens qui savent que ils vont se retrouver avec une facture de, bon, comme vous dites, 10, 20 000 et plus, ben, c'est sûr qu'ils ont peur parce qu'ils disent, ben, moi, si je peux pas payer ma facture, je vais avoir des problèmes avec la justice, est-ce que je vais avoir des problèmes avec mon dossier d'immigration, ils ont très peur. Et aussi, est-ce que je vais être harcelé, est-ce qu'on va mal me soigner parce que je peux pas payer? Donc, bien sûr, ils ne viennent qu'en dernier recours où il y a des complications graves qui peuvent survenir, qui auraient pu être soignées ou traiter bien avant avec les meilleurs résultats.
C'est un simple diabète de grossesse, par exemple, là, qui dégénère. Ça peut être super grave. Pourtant, c'est facile à contrôler.
Ben, ça, c'est un très bon exemple. Parce que quand une personne a un diabète de grossesse, normalement, on la réfère à une clinique spéciale de diabète.
Oui.
Mais si une personne sans couverture se présente à l'hôpital, on ne va pas lui dire qu'aller à la clinique de diabète, c'est un soin vital. On va lui dire, elle va dépasser à la perception, payer 500 $ par visite, ou enfin 300 ou 400, ça dépend des hôpitaux, mais enfin, c'est des sommes très élevées. Et bon, si vous n'avez pas d'argent, ben tant pis, vous débrouillez-vous autrement. Alors nous, bien sûr, à Médecins du Monde, dans d'autres choses, on essaye de se débrouiller, on a quand même quelques ressources bénévoles, enfin, c'est pas idéal, ça donne pas des soins optimaux. Et effectivement, on a eu plusieurs cas dans les dernières années de bébés qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas eu les soins optimaux.
Oui, puis vous pratiquez de façon bénévole là, pour la clinique Médecins du Monde.
Oui, on pratique de façon bénévole. On essaye de parer au plus grave, d'empêcher les complications, de donner des soins les meilleurs. Il y a des choses qu'à la clinique même, on n'a pas beaucoup de... ça prend l'expertise qui existe ou le matériel, le plateau technique.
Si vous ne l'avez pas?
On peut ne pas l'avoir. Bien sûr, on essaye d'accompagner les femmes à l'hôpital, mais des fois, ça ne marche pas parce que ils ne trouvent pas le chemin ou ils sont refusés à la perception parce qu'ils n'ont pas l'argent et finalement, les choses traînent. Et je peux vous donner un exemple concret. On a eu récemment, quelques temps, une personne qu'on suivait à la clinique des médecins du Monde. À un moment donné, elle a eu de la haute pression. On l'a envoyé, dit de se présenter dans un hôpital, mais là, ils se sont mal compris, elle n'avait pas d'argent, à l'urgence, ils l'ont renvoyé à la maison.
Elle faisait de la pré-éclampsie?
Après, elle est restée, excusez-moi?
Elle faisait de la pré-éclampsie ou quoi?
Oui, elle faisait de la pré-éclampsie, c'est ça.
Ouais.
Bon, ils l'ont renvoyé à la maison, donc après, comme il y avait pas, elle est revenue à la clinique de Médecins du Monde 2 semaines après, mais enfin, elle avait sa pré-éclampsie tout ce temps-là.
Ouais.
Et bon, elle avait une préclampsie à son âge très sévère et le bébé était mort-né.
Ben,
était déjà mort. Donc, en fait, on a une personne qui vivait légalement ici. Elle avait un visa étudiant, puis elle était en passe d'avoir son permis de travail post-études. On a une personne qui, une jeune femme en bonne santé, qui vivait légalement ici, qui a été en danger de mort pendant plusieurs semaines.
Ouais.
Et puis, son bébé finalement est mort. Donc, je vois pas qui peut profiter, qui peut avoir avantage à un tel gâchis.
Ça se passe chez nous au Québec, là, pas aux États-Unis, au Québec, en 2022.
Oui, c'est exact.
Dr. Vell, mon Dieu, je t'atterre d'entendre ça. Je pensais pas que ça se pouvait. À ce point-là, ici, là, chez nous, avec notre système de santé, ce qu'on dit aussi sur la place publique, au niveau des gouvernements, puis on a un problème de naissance au Québec, puis on laisse des femmes accoucher dans des conditions épouvantables, on leur facture... le fameux bill de 300 000 $, je vais être longtemps à y penser. Merci beaucoup, Dr. Vell.
Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Hein? J'espère que vous allez pouvoir passer le message que cette situation ne peut plus durer.
Oui, ben, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler là-dessus. Dr. Vell, qui est obstétricien gynécologue bénévole, je le souligne 3 fois. Pour la clinique Médecins du Monde. Moi, des anesthésistes qui demandent 800 $ cash à des femmes qui sont en train de souffrir. Je m'excuse, là, mais je trouve ça cheap. Je trouve ça laid. Je trouve pas que c'est un geste très humain. Ce sont des médecins. Bon. Puis là, je veux pas mettre tous les anesthésistes dans le même panier. Ne m'écrivez pas pour me dire je suis anesthésiste et jamais je ferai ça. Je le sais, là, que c'est pas tous les anesthésistes, mais le seul fait que ça se puisse puis que ça se passe souvent, le Dr. Vell vient de nous l'expliquer, c'est quand même inacceptable.